Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Ahmed, notre consultant, notre co-animateur habituel, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui à cause d'une méchante grippe. Nous souhaitons à Ahmed un bon rétablissement. Pendant le mois de février de cette année, nous avons eu le privilège de partager avec vous nos impressions et parfois certains faits moins populaires en célébrant l'histoire et les membres d'une communauté pour reconnaître ou atténuer leurs souffrances, reconnaître leurs apports significatifs à la grandeur de notre monde. Bonjour à toutes et à tous, aux uns et aux autres fidèles auditrices et auditeurs de Chise 94.3 FM et de Son de Cloche, l'émission préférée de beaucoup, ici et à travers le monde pour toutes ses formes d'expression, anodine, remarquable ou extraordinaire, local ou global, artistique, scientifique, social ou autre, des êtres, des choses, des événements. Nous suggérons de ne pas rester enfermés dans des concepts, des paradigmes ou des idées toutes faites, mais se sentir en tout temps solidaire de tout ce qui concerne notre monde ou nos semblables, ici ou ailleurs, et agir en conséquence sans être limité ou disqualifié pour quelque raison que ce soit. Notre émission donne l'occasion à tous les points de vue d'exprimer leur originalité dans le respect de toutes, tous, chacune et chacun. Dans cette célébration du vivre ensemble, nous œuvrons à la concrétisation heureuse du donner et du recevoir au fil des émissions. Je m'appelle Augustin Béchi et vous exprime toute la joie, l'enthousiasme et le plaisir incroyable et agréablement renouvelé de passer les 2 heures qui vont suivre en votre estimable, enrichissante et stimulante compagnie. Avant d'aborder le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, écoutons Augustin Béchi. Je me souviens.
Souvent d'une vieille photo jaunie ou d'un brouillon griffonné et froissé pour qu'on se rappelle des souvenirs qu'on croyait oubliés. Cinquante ans déjà et nous sommes toujours debout à travailler ensemble avec nos frères et sœurs du monde entier. Nous continuons aujourd'hui parce qu'il y a des besoins et nous poursuivrons tant qu'il y aura des besoins. Comme l'eau qui coule sous les ponts, le temps n'emporte pas tout. Il reste souvent bien des choses dont on se souvient parfois. Pour ceux qui, comme au Québec, ont pour devise, je me souviens, on se demande à l'usage, ce souvenir, ça sert à quoi? L'esclavage des Noirs qui continue, les brimades sur les femmes qui perdurent, les guerres à travers le monde, ce souvenir, ça sert à quoi? Nous avons une pensée profonde et sérieuse pour les personnes des Premières Nations à travers notre monde dont les droits fondamentaux ne sont toujours pas reconnus. D'une fois à l'autre, on n'apprend pas, on change plutôt le mal de place. Et c'est ainsi qu'on agit, malheureusement, depuis trop longtemps. Arrêtons de détruire la nature, accueillons les migrants maintenant. Donnons la main à ceux qui en ont besoin, ce qui n'est pas donné est perdu. La naissance à la mort, il y a la vie, quoi qu'on fasse, qu'il fasse des sourires ou des grimaces, nous nous devons faire avec. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est notre responsabilité d'être heureux quand on vit sur la terre et bâtir un monde meilleur. Alors proposons comme devise pour la vie l'amour et l'amitié. L'amour qui produit tout, l'amitié qui supporte tout. Proposons comme devise pour la vie l'amour et l'amitié. L'amour qui produit tout, l'amitié qui supporte tout. L'amour qui produit tout, l'amitié qui supporte tout. L'amour qui produit tout. L'amitié qui supporte tout. L'amour qui produit tout. L'amitié qui supporte tout. L'amour qui produit tout. L'amitié qui supporte tout.
Revenons brièvement sur le discours de Nicolas Sarkozy à l'université tchèque Anta Diop de Dakar, enfin au Sénégal en 2007.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier le gouvernement et le peuple sénégalais de leur accueil si chaleureux. Permettez-moi de remercier l'Université de Dakar qui me permet pour la première fois de m'adresser à l'élite de la jeunesse africaine en tant que président de la République française. Je suis venu vous parler avec la franchise et avec la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains. Entre le Sénégal et la France, L'histoire a tissé les liens d'une amitié que nul ne peut défaire. Cette amitié est forte et sincère. C'est pour cela que j'ai souhaité adresser de Dakar le salut fraternel de la France à l'Afrique tout entière. Je veux en effet, ce soir, m'adresser à tous les Africains qui sont si différents les uns des autres, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même histoire et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des Africains. Là réside le premier mystère de l'Afrique. Oui, je veux m'adresser à tous les habitants de ce continent meurtri, et en particulier aux jeunes, à vous qui vous êtes tant battus les uns contre les autres, et souvent tant haïs, qui parfois vous combattez et vous haïssez encore, mais qui pourtant vous reconnaissez comme frères, frères dans la souffrance, frères dans l'humiliation, frères dans la révolte, frères dans l'espérance, frères dans le sentiment que vous éprouvez d'une destinée commune. Frères, à travers cette foi mystérieuse qui vous rattache à la terre africaine, foi qui se transmet de génération en génération et que l'exil lui-même ne peut effacer. Je ne suis pas venu, jeune d'Afrique, pour pleurer avec vous sur les malheurs de l'Afrique, car l'Afrique n'a pas besoin de mes pleurs. Je ne suis pas venu, jeune d'Afrique, pour m'apitoyer sur votre sort, parce que votre sort est d'abord dans vos mains. Et que feriez-vous, fière jeunesse africaine, de ma pitié ? Je ne suis pas venu effacer le passé, car le passé ne s'efface pas. Je ne suis pas venu nier les fautes, ni les crimes, car il y a eu des fautes et il y a eu des crimes. Il y a eu la traite négrière, il y a eu l'esclavage, les hommes, les femmes, les enfants achetés et vendus comme des marchandises. Et ce crime ne fut pas seulement un crime contre les Africains, ce fut un crime contre l'homme. Ce fut un crime contre l'humanité tout entière. Et l'homme noir, qui éternellement entend de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit de l'un d'entre eux qu'on jette à la mer, cet homme noir qui ne peut s'empêcher de se répéter sans fin, et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes. Cet homme noir, je veux le dire ici à Dakar, il a le visage de tous les hommes du monde. Cette souffrance de l'homme noir, je ne parle pas de l'homme au sens du sexe, je parle de l'homme au sens de l'être humain, et bien sûr de la femme et de l'homme dans son acceptation générale. Cette souffrance de l'homme noir, c'est la souffrance de tous les hommes. Cette blessure ouverte dans l'âme de l'homme noir est une blessure ouverte dans l'âme de tous les hommes. Mais nul ne peut demander aux générations d'aujourd'hui d'expier ce crime perpétré par les générations passées. Nul ne peut demander aux fils de se repentir des fautes de leur père. Jeunesse d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. Je suis venu vous dire que je ressens la traite et l'esclavage comme des crimes envers l'humanité. Je suis venu vous dire que votre déchirure et votre souffrance sont les nôtres et sont donc les miennes. Je suis venu vous proposer de regarder ensemble, Africains et Français, au-delà de cette déchirure et au-delà de cette souffrance, je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non d'oublier cette déchirure et cette souffrance, qui ne peuvent pas être oubliées, mais de les dépasser. Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non de ressasser ensemble le passé, mais d'en tirer ensemble les leçons afin de regarder ensemble l'avenir. Je suis venu, jeunes d'Afrique, regarder en face, avec vous, notre histoire commune. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretenu en Afrique, au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. Ils n'ont pas vu la profondeur et la richesse de l'âme africaine. Ils ont cru qu'ils étaient supérieurs, qu'ils étaient plus avancés, qu'ils étaient le progrès, qu'ils étaient la civilisation. Ils ont eu tort. Ils ont voulu convertir l'homme africain. Ils ont voulu le façonner à leur image. Ils ont cru qu'ils avaient tous les droits. Ils ont cru qu'ils étaient tout puissants, plus puissants que les dieux de l'Afrique, plus puissants que l'âme africaine, plus puissants que les liens sacrés que les hommes avaient tissés patiemment pendant des millénaires avec le ciel et la terre d'Afrique, plus puissants que les mystères qui venaient du fond des âges. Ils ont eu tort. Ils ont abîmé un art de vivre. Ils ont abîmé un imaginaire merveilleux. Ils ont abîmé une sagesse ancestrale. Ils ont eu tort. Ils ont créé une angoisse, un mal de vivre. Ils ont nourri la haine. Ils ont rendu plus difficile l'ouverture aux autres, l'échange, le partage. Parce que pour s'ouvrir, pour échanger, pour partager, il faut être assuré de son identité, de ses valeurs, de ses convictions. Face aux colonisateurs, le colonisé avait fini par ne plus avoir confiance en lui, par ne plus savoir qui il était, par se laisser gagner par la peur de l'autre, par la crainte de l'avenir. Le colonisateur est venu, il a pris. Il s'est servi, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a dépouillé le colonisé de sa personnalité, de sa liberté, de sa terre, du fruit de son travail. Il a pris, mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des terres vierges. Il a donné sa peine, son travail, son savoir. Je veux le dire ici, tous les colons n'étaient pas des voleurs. Tous les colons n'étaient pas des exploiteurs. Il y avait parmi eux des hommes mauvais, mais il y avait aussi des hommes de bonne volonté. Des hommes qui croyaient remplir une mission civilisatrice, des hommes qui croyaient faire le bien. Ils se trompaient, mais certains étaient sincères. Ils croyaient donner la liberté, ils créaient l'aliénation. Ils croyaient briser les chaînes de l'obscurantisme, de la superstition, de la servitude. Ils forgeaient des chaînes bien plus lourdes. Ils imposaient une servitude plus pesante, car c'étaient les esprits, c'étaient les âmes qui étaient asservies. Ils croyaient donner de l'amour sans voir qu'il semait la révolte et parfois la haine. La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. Elle n'est pas responsable des fanatismes. Elle n'est pas responsable de la corruption, de la prévarication. Elle n'est pas responsable des gaspillages et de la pollution. Mais la colonisation fut une grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient cru tout donner et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur en voulait autant. La colonisation fut une grande faute qui détruisit chez le colonisé l'estime de soi et fit naître dans son cœur cette haine de soi qui débouche toujours sur la haine des autres. La colonisation fut une grande faute, mais de cette grande faute est né l'embryon d'une destinée commune. Et cette idée me tient particulièrement à cœur. La colonisation fut une faute qui a changé le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique et qui les a mêlés. Et ce destin commun a été scellé par le sang des Africains qui sont venus mourir dans les guerres européennes. Et la France n'oublie pas ce sang africain versé pour sa liberté. Nul ne peut faire comme si rien n'était arrivé. Nul ne peut faire comme si cette faute n'avait pas été commise. Nul ne peut faire comme si cette histoire n'avait pas eu lieu. Pour le meilleur, comme pour le pire, la colonisation a transformé l'homme africain et l'homme européen. Jeunes d'Afrique, vous êtes les héritiers des plus vieilles traditions africaines et vous êtes les héritiers de tout ce que l'Occident a déposé dans le cœur et dans l'âme de l'Afrique. Jeunes d'Afrique, la civilisation européenne a eu tort de se croire supérieure à celle de vos ancêtres, mais désormais, la civilisation européenne vous appartient aussi. Jeunes d'Afrique, ne cédez pas à la tentation de la pureté, parce qu'elle est une maladie de l'intelligence, et qui est ce qu'il y a de plus dangereux au monde. Jeunes d'Afrique, ne vous coupez pas de ce qui vous enrichit. Ne vous amputez pas d'une part de vous-même. La pureté est un enfermement. La pureté est une intolérance. La pureté est un fantasme qui conduit au fanatisme. Je veux vous dire, jeunes d'Afrique, que le drame de l'Afrique n'est pas dans une prétendue infériorité de son art, de sa pensée, de sa culture. Car pour ce qui est de l'art, de la pensée et de la culture, c'est l'Occident qui s'est mis à l'école de l'Afrique. L'art moderne doit presque tout à l'Afrique. L'influence de l'Afrique a contribué à changer non seulement l'idée de la beauté, non seulement le sens du rythme, de la musique, de la danse, mais même, dit Senghor, la manière de marcher ou de rire du monde du XXe siècle.
Nous revenons à Sarkozy, tout à l'heure, à la suite d'une virgule sonore suivie d'une pause publicitaire.
barreau, lent comme la nuit. Les siestes sont longues chez Caro, lent comme la nuit.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Je suis prêt, Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale! Gare à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveauté de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale!
Les entrevues!
Écoute locale! La playlist!
Lundi, 14h! On sauve la musique!
À Chiz 94.3.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Poursuivons avec le discours de Sarkozy en 2007 à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop.
Excusez-moi. En plus de tout, j'ai une angine. Merci. Je veux donc dire à la jeunesse d'Afrique que le drame de l'Afrique ne vient pas de ce que l'âme africaine serait imperméable à la logique et à la raison, car l'homme africain est aussi logique et raisonnable que l'homme européen. C'est en puisant dans l'imaginaire africain que vous ont légué vos ancêtres, c'est en puisant dans les contes, dans les proverbes, dans les mythologies, dans les rites, dans ces formes qui depuis l'aube des temps se transmettent et s'enrichissent de génération en génération, que vous trouverez l'imagination et la force de vous inventer un avenir qui vous soit propre, un avenir singulier, qui ne ressemblera à aucun autre, où vous vous sentirez enfin libre, libre, jeune d'Afrique, d'être vous-même, libre de décider par vous-même. Je suis venu vous dire que vous n'avez pas à avoir honte des valeurs de la civilisation africaine, qu'elles ne vous tirent pas vers le bas, mais vers le haut, qu'elles sont un antidote au matérialisme et à l'individualisme qui asservissent l'homme moderne, qu'elles sont le plus précieux des héritages face à la déshumanisation et à l'aplatissement du monde. Je suis venu vous dire que l'homme moderne qui éprouve le besoin de se réconcilier avec la nature a beaucoup à apprendre de l'homme africain qui vit en symbiose avec la nature depuis des millénaires. Je suis venu vous dire que cette déchirure entre ces deux parts de vous-même est votre plus grande force et votre plus grande faiblesse,
selon que vous vous efforcerez ou non d'en faire la synthèse. Je suis venu vous dire qu'il y a en vous, jeunes d'Afrique, deux héritages, deux sagesses, deux traditions qui se sont longtemps combattues, celle de l'Afrique et celle de l'Europe. Je suis venu vous dire que cette part africaine et cette part européenne de vous-même forment votre identité déchirée. Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, vous donner des leçons. Je ne suis pas venu vous faire la morale. Je suis venu vous dire que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de l'Occident, mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne, car elle est l'appel de la liberté, de l'émancipation, de la justice et de l'égalité entre les femmes et les hommes, car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là.
C'est ça, malheureusement pour Nicolas Sarkozy, c'est là où, suivant l'opinion de beaucoup, il a dérapé. Après avoir fait une analyse correcte, il a vraiment dérapé. Et pourtant, Nicolas Sarkozy est gaulliste. Et pourtant, il aurait dû être au courant du nom de Sékou Touré au général de Gaulle.
Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage.
Ça, c'est Sékou Touré disant non au général de Gaulle pendant la période des indépendances. Et écoutons la locution, le discours plutôt, de Patrice Emery Lumumba, qui est lui aussi assez édifiant. On laisse les gens dire les choses par eux-mêmes pour que ce ne soit pas juste moi qui prête la voix à ces illustres fils d'Afrique.
Gouvernement congolais, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaire qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voies honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que nous n'étions admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Que nous voyageions même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout pour, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants.
Ensemble. Alors, ce discours de Lumumba se prolonge, continue, mais nous avons quand même l'essentiel où il dresse une grande liste d'insatisfactions et où il se projette vers l'avenir. Donc, en 1960 déjà, Lumumba était, nous croyons, entré dans l'histoire, contrairement au dérapage de Nicolas Sarkozy. Par contre, revenons avec Hakainde Hengé à la réalité qu'on vit, à la vie de tous les jours, le chant du coupeur de Koumé.
Le bas d'avant nous vient. Nous avons un peu de temps. Et si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous Ma hache défie le bois, ma hache mord le bois, ma hache déteste le bois, je connais ma hache. Quand elle rit, quand elle pleure, quand elle se fâche, ma hache mord le bois, le soleil mord mon corps, ma hache déteste le bois, et moi, je déteste l'air. La journée est longue, mais moi je ris. La journée est pénible, mais moi je chante. La fin du mois est stérile, je bosse. La fin du mois est stérile, je chante. Mes poches sont vides, je chante. Mes journées sont rudes, je chante. Je chante. Mes doigts sont en sang, je bosse. Je n'ai point de repos, je n'ai point de sommeil. Mes nuits, des cauchemars, les pleurs des enfants qui ont faim et qui veulent chaque jour un peu plus, un peu plus. De bon matin, je cherche ma hache. Ma hache mord le bois. Ma hache défie le bois. Ma hache déteste le bois. Et moi, je déteste l'air. L'air. Le soleil mord mon corps. Je chante. Les moutes tiétées sucent mon sang. Je chante.
Et pourtant, à travers tout ça, nous avons aussi connu, dans la communauté noire, des éléments de satisfaction. Par exemple, Wole Soyinka, Nobel de littérature. Né le 13 juillet 1934 à Abeokuta, au Nigeria. C'est un écrivain et metteur en scène. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1986, il est le premier auteur noir à en être honoré. Artiste prolifique et éclectique, il a écrit de nombreuses pièces de théâtre, mais aussi des récits autobiographiques, des recueils de poèmes et de nouvelles, des romans, ainsi que des essais politiques et littéraires. Il est réputé pour la richesse de son imagerie poétique et la complexité de sa pensée. Il compte parmi ses chefs-d'œuvre la tragédie anticolonialiste, La mort et l'écuyer du roi, écrit en 1975. Mais ce qu'on retient beaucoup plus dans la communauté noire, dans les communautés noires, c'est sa critique de la négritude, des
de Césaire, Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor. Il a dit « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il tue sa proie et la mange. » Écoutons la chanson des indépendances africaines.
Indépendance, tcha tcha, tozoumiye, otipoisa, tcha tcha, toubakidi, au tableron, tcha tcha, bagagné, onipata, tcha tcha, tozoumiye, indépendance, tcha tcha, tozoumiye, otipoisa, tcha tcha, toubakidi, au tableron, tcha tcha, bagagné, onipata.
Noire, et toutes les idées n'étaient pas et ne sont pas celles de la victimisation. Il y a des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main. Par exemple, Martin Luther King Jr. Il est né Michael King Jr. et il est plus couramment appelé Martin Luther King. Il est né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929. Il est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. C'était un pasteur baptiste et militant non violent américain, afro-américain, pour le mouvement américain des droits civiques. C'est un fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Il organise et dirige les actions telles que le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques. Il a prononcé un discours célèbre qui s'intitule « I have a dream » le 28 août
1963, devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C. Durant la marche pour l'emploi et la liberté. Ce discours est soutenu par John Fitzgerald Kennedy dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Le président Lyndon B. Johnson, par une plaidoirie infatigable auprès des membres du Congrès, arrive à faire voter différentes lois fédérales comme le Civil Rights Act de 1964, le Voting Rights Act de 1965 et le Civil Rights Act de 1968 qui mettent juridiquement fin à toutes les formes de ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis. Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté, interrompue en 1968 par son assassinat. Officiellement attribué à James Earl Ray, dont la culpabilité et la participation à un complot sont toujours débattues. Il se voit décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté par Jimmy Carter en 1977, le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 1978, la médaille d'or du Congrès en 2004. Il est considéré comme un des plus grands orateurs américains. Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. Deux centres Martin Luther King pour l'action non violente existent, l'un en Suisse à Lausanne et l'autre à Atlanta. De nombreux autres monuments, musées, écoles sont répertoriés sous le nom de Martin Luther King partout dans le monde. Écoutons Richard Bonnat et Raoul Midon, State of Mind.
Sitting worrying about the future, worrying about the future, don't change and pass. Used to think tomorrow would be better, but now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy. And live inside a love that shines bright enough to last a lifetime.
I wanna be rich,
more than a fantasy. Ride the wind and fly, 'cause it's all a state of mind.
Soul state of mind. Soul state of mind. Soul state of mind.
Wake up in the morning and I turn the pages. Don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And
I wanna be rich,
I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last about time.
I wanna be
rich, more than a fantasy. By the winds and climb, 'cause it's all a state of mind.
Chiz 94.3 FM à Québec.
On Mukelsit.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliées ou ignorées, c'est ce qui vous attend à Anmukeosit. Anmukeosit, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que je sais pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben je suis ça pour toi. Écoute Le Monde de Ricassono, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique New Country, rap, reggaeton, EDM Club, sans oublier découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz 94.3.
C'est de rendez-vous!
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Le Mois Multi, festival international d'art multidisciplinaire et électronique, célèbre son 25e anniversaire. Performances, spectacles, expositions, ateliers et activités vous attendent du 1er au 25 février au cœur de la ville de Québec. Joignez-vous à la fête et consultez la programmation complète au moismulti.org.
On ne peut pas parler de Martin Luther King sans parler de Malcolm X. Né Malcolm Little, aussi connu sous le nom de El-Hadj Malik Al-Shabazz. Né le 19 mai 1925 à Omaha, Nebraska, et mort, assassiné lui aussi, le 21 février 1965 à Harlem, État de New York. C'était un orateur prédicateur, porte-parole de Nation of Islam, militant politique, défenseur des droits de l'homme afro-américain. Après avoir été une voix majeure du nationalisme afro-américain et de Nation of Islam, il quitte cette organisation en 1964 pour rejoindre l'islam sunnite et embrasser des vues plus universalistes, et devenir une figure de proue du mouvement américain des droits civiques, du panafricanisme et du socialisme. Dans les derniers mois de sa vie, il a appelé à une unité des divers mouvements des droits civiques et il s'est rapproché d'autres leaders afro-américains comme le pasteur baptiste Martin Luther King, John Lewis, président du Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, ou encore Fanny Lou Hamer, du Mississippi Freedom Democratic Party. En janvier 1965, lors d'une réunion du Congrès of Racial Equality, il appelle à soutenir tout mouvement œuvrant pour les droits civiques. Malcolm X est l'une des quatre grandes icônes des mouvements afro-américains pour abolir les discriminations raciales aux États-Unis, avec Rosa Parks, Daisy Bates et Martin Luther King, pour la période qui va de 1954 à 1965. Nous avons déjà rappelé que dans certains États fédérés depuis 1979, le Malcolm X Day est un jour férié le 19 mai. Écoutons Bob Marley, Redemption Song. C'était Bob Marley qui a partagé avec nous Redemption Song. Écoutons maintenant I Have a Dream de Martin Luther King. Il y a 100 ans, un grand Américain dont l'ombre symbolique nous couvre aujourd'hui, signé l'acte d'émancipation. Ce décret est devenu un phare qui a fait briller la lumière de l'espérance pour des millions d'esclaves noirs. Marqué au fer rouge d'une cinglante injustice, ce fut comme une aube de joie à la fin de la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans ont passé et le noir n'est toujours pas libre. 100 ans ont passé et l'existence du noir est encore tristement entravée par les fers de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans ont passé et le noir vit toujours sur l'île solitaire de la pauvreté, au milieu d'un océan de prospérité matérielle. 100 ans ont passé et le noir croupit encore dans les bas fonds de la société, comme un exilé dans son propre pays. Nous sommes réunis en ce lieu sanctifié pour rappeler à l'Amérique l'urgence de l'heure présente. L'heure est venue d'émerger de la vallée obscure de la ségrégation pour avancer vers la lumière de la justice raciale. L'heure est venue de sortir des sables mouvants de l'injustice raciale pour prendre pied sur le roc solide de la fraternité. L'heure est venue de faire de la justice une réalité. Il n'y aura ni repos ni tranquillité en Amérique tant que le noir n'aura pas obtenu ses droits civiques. Nous devons toujours combattre sur le terrain de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser notre combat créatif dégénérer en violence physique. Encore et toujours, il faut nous élever vers des sommets et répondre à la force physique par la force de nos âmes, la magnifique ardeur militante qui s'est emparée de la communauté noire ne doit pas nous conduire à nous méfier de tous les Blancs. Car nombre de nos frères Blancs témoignent ici par leur présence qu'ils ont compris que leur destinée et la nôtre sont liées. Même si nous traversons des moments difficiles, aujourd'hui et demain, je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément ancré dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour cette nation se lèvera pour vivre pleinement les articles de sa foi. Nous tenons ces vérités pour évidentes. Que tous les hommes naissent égaux. Je rêve qu'un jour sur les collines rouges de Georgie, les fils des esclaves et les fils des esclavagistes pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, qui se consume dans les feux de l'injustice, qui brûle du feu de l'oppression, se transformera en une oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à l'aune de leur caractère. J'ai un rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses racistes malfaisants, son gouverneur qui n'emploie que des mots
comme nullification et interposition qu'un jour, en Alabama, des garçons et des filles noires pourront saisir fraternellement la main des enfants blancs. Je rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour, tous les vallons seront relevés. Toutes les collines seront aplanies. Tous les rochers seront rasés. Tous les défauts seront corrigés. Et que la gloire du Seigneur sera révélée à tous les hommes. Voilà notre espérance. Voilà la foi que je remporterai dans le Sud. Avec cette foi, nous arracherons à la montagne du désespoir le joyau de l'espérance. Avec cette foi, nous saurons transformer la cacophonie de la discorde en une splendide symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous saurons travailler et prier ensemble. Nous battre ensemble pour aller en prison ensemble. Nous dresser ensemble pour la liberté, sachant que nous serons libres un jour. Mes amis, faites sonner la cloche de la liberté. Des sommets prodigieux du New Hampshire. Faites sonner la cloche de la liberté. Des montagnes de l'État de New York. Faites sonner les Allegheny en Pennsylvanie. Faites-la sonner des sommets des montagnes du Colorado. Faites-la sonner des pentes de la Californie. Mais plus encore, faites-la sonner de Stone Mountain en Géorgie. Faites-la sonner de Lockhart Mountain au Tennessee. Faites sonner la liberté de chaque colline, de chaque butte, de chaque montagne du Mississippi. Faites sonner la cloche de la liberté. Et quand nous ferons sonner la cloche de la liberté, dans chaque village et dans chaque hameau, dans chaque état et dans chaque ville, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de Dieu, les noirs et les blancs, les juifs et les chrétiens, protestants et catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles de ce vieux chant négro-spirituel. Libre enfin, merci Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres enfin. Ce discours a été marquant pour la communauté noire ou pour la communauté humaine tout court. C'est pourquoi nous allons l'appuyer par une chanson africaine de Makeba, Pole Mzee.
Kenya kufunga, ya mama pole pole mzee, ya pole pole mzee, pole pole mzee akufunga, ya mama pole pole mzee, pole pole mzee, ya pole pole mzee akufunga. Sisi tuwataka Kenya, sisi tuwataka Kenya. Kenya akufunga, sisi tuwataka Kenya, sisi tuwataka Kenya, sisi tuwataka Kenya akufunga. Yelele pole pole mzee, yo pole pole mzee, yo pole pole mzee.
Kenya, Kenya tale chaka Kenya, Kenya tale chaka Kenya. Akuku, yelele pole pole muze.
Mohamed Ali, il est né le 17 janvier 1942 à Louisville dans le Kentucky et il est mort le 3 juin 2016 à Scottsdale en Arizona. C'est un boxeur américain évoluant en catégorie poids lourd, considéré comme un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il est né sous le nom de Cassius Marcellus Clay Jr. Il l'a changé en Mohamed Ali à l'âge de 22 ans après avoir rejoint l'organisation Nation of Islam en 1965, au moment de sa conversion à l'islam. Considéré comme une icône culturelle, Mohamed Ali a été à la fois adulé et vilipendé. Il accède à la notoriété internationale à 18 ans en remportant la médaille d'or des poids mi-lourds aux Jeux olympiques d'été de 1960 à Rome. En 1967, 3 ans après avoir remporté le championnat du monde des poids lourds face à Sonny Liston, il est critiqué pour son refus d'être enrôlé dans l'armée américaine par opposition à la guerre du Vietnam, en disant « Aucun Vietcong ne m'a jamais traité de nègre ». Mohamed Ali est arrêté et reconnu coupable de fraude. Il n'est pas emprisonné, mais dépossédé de son titre mondial et de sa licence de boxe. Il ne combat plus pendant près de 4 ans, jusqu'à ce que son appel soit finalement reçu par la Cour suprême américaine. Surnommé « The Greatest », Mohamed Ali devient le premier triple champion du monde poids lourd. Il a participé à plusieurs combats de boxe historiques. Parmi ceux-ci, 3 disputés contre son rival Joe Frazier, considéré parmi les plus grands combats dans l'histoire de la boxe, ainsi que son affrontement contre George Foreman à Kinshasa, dont il sort vainqueur par KO au 8e round devant environ 100 000 spectateurs le 30 octobre 1974. Mohamed Ali est également connu pour son style de combat peu orthodoxe pour un poids lourd, incarné par son slogan « Vole comme un papillon, pique comme une abeille » et employant des techniques telles que le shuffle Ali, le rope dope, ainsi que en amont du combat, le trash talking, c'est-à-dire haranguer ses adversaires, il mène à leur encontre une véritable guerre psychologique et médiatique pour les déstabiliser. Grâce à ses compétences et sa personnalité hors du commun, Mohamed Ali est devenu un des athlètes les plus célèbres dans le monde entier. Élu à 6 reprises meilleur boxeur de l'année par le Ring Magazine, un record, et intégré à l'International Boxing Hall of Fame, Ali est considéré comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. En 1999, il est couronné sportif du siècle par Sports Illustrated et personnalité sportive du siècle par la BBC. Il est nommé sportif du 20e siècle par une assemblée de journalistes internationaux précédant Pelé. Il reçoit à Berlin en mars 2005 la médaille de paix Otto Hahn au nom de l'Organisation des Nations Unies pour son engagement en faveur du mouvement américain contre la ségrégation et pour l'émancipation culturelle des Noirs à l'échelle mondiale. Il est décoré en 2005 de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile,
aux États-Unis. Au-delà de ses performances sportives, il atteint une notoriété inégalée chez un sportif par son goût du spectacle, sa personnalité provocatrice, ses prises de position religieuses et politiques, puis son destin personnel. Il est atteint de la maladie de Parkinson à partir de 1984, qu'il expose devant le monde entier alors qu'il allume la vasque olympique à Atlanta pour les Jeux olympiques d'été de 1986. Il meurt le 3 juin 2016 à l'âge de 74 ans à la suite de problèmes respiratoires. En Afrique, nous avons retenu, à la suite de son combat contre George Foreman, Ali Boumaye. Prenons une bifurcation musicale suivie d'une pause publicitaire. Nous vous revenons tout juste après.
Et que sur son passage, elle a tout cassé. Tous les courants et champs de blé. Le pion monarque, il revient tous les ans. Sur son passage, elle a tout cassé.
Sur des brasiers ardents, son prisme à facettes dans lequel elle tourne, elle s'étourdit.
Se voit en kaléidoscope comme si elle avait plein d'amis.
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 Le pion monarque.
Découvrir les artistes de la ville de Québec, écoute Chiz 94.3.
Écoute locale, écoute Chiz.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom de clan tribal est Madiba, est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, province du Cap. Il est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. C'est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain ANC en 1943 afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposé par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid mises en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960 et, comme la lutte pacifique ne donne pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC Umkhonto Wesizwe en 1961, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA. Puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime d'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Après une transition difficile où Frédéric de Klerk et lui évitent une guerre civile entre les partisans de l'apartheid, ceux de l'ANC et ceux de l'Inkatha à dominante Zoulou, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre noirs et blancs.
Il lutte contre les inégalités économiques mais néglige le combat contre le sida. En pleine explosion en Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active mais continue de soutenir publiquement le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives. Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou contre le sida, il demeure une personnalité mondialement connue en faveur de la défense des droits de l'homme. Il est salué comme le père d'une Afrique du Sud multiethnique et pleinement démocratique, qualifiée de nation arc-en-ciel. Même si le pays souffre d'inégalités économiques, de tensions sociales et de replis communautaires. Écoutons Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried. I'm happy.
La vie elle-même dit que la communauté noire
n'est pas une communauté à part, que c'est une communauté à part entière de la communauté humaine. C'est ainsi qu'il y a une liste quasiment illimitée d'inventeurs afro-américains, une liste scientifique des inventeurs afro-américains. Je vais citer quelques-uns. La liste n'est pas finale. Nous parlerons de Thomas L. Jennings, nettoyage de vêtements à sec, de D. Henry Blair, du semoir à maïs de type brouette, d'Elijah McCoy, lubrifiant à moteur, Louis Latimer, première centrale électrique au monde, de Granville Tyler Woods, inventeur, invention de la télégraphie, Alexandre Miles, ascenseur électrique, Philip Downing, boîte aux lettres, machine à timbrer les lettres, Sarah Boone, table à repasser, Alice H. Parker, système de chauffage au gaz, George Washington Carver, culture alternative pour les agriculteurs, Gareth Morgan, feu de signalisation, George Peck, potatoes chips, George Niccolo, système de sonorisation cinéphone, Frederick Jones, premier ventilateur à compteur à contrôle électrique, Richard Spikes, système de transmission et changement de vitesse, Otis Boykin, unité de contrôle pour stimulateur cardiaque artificiel, Mary Van Britten Brown, système de vidéosurveillance, ouverture de porte à distance, Henry Thomas Sampson, première lampe de poche électrique, Gladys West, système de navigation GPS, Dr. Mark Dean, système de contrôle de la circulation aérienne. Écoutons Bob Marley, One Love.
There ain't no hiding place from the
Écoutons la voix de Barack Hussein Obama. L'audace d'espérer. Juillet 2004, Barack Obama, alors sénateur de l'État de l'Illinois.
I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America.
With whom he interacted with anything but courtesy. Une union perfectible.
He contains within him the contradictions, the good and the bad, of the community that he has served diligently for so many years. I can no more disown him than I can disown the black community. I can no more disown him than I can disown my white grandmother, a woman who helped raise me, a woman who sacrificed again and again for me, a woman who loves me as much as she loves anything in this world, but a woman who once confessed her fear of black men who passed her by on the street, and who on more than one occasion has uttered racial or ethnic stereotypes that made me cringe. These people are part of me, and they are part of America, this country that I love.
Un nouveau départ.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect, and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap and share common principles, principles of justice and progress, tolerance, and the dignity of all human beings.
Une paix juste et durable.
We must begin by acknowledging a hard truth. We will not eradicate violent conflict in our lifetimes. There will be times when nations, acting individually or in concert, will find the use of force not only necessary, but morally justified. I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince al-Qaeda's leaders to lay down their arms. To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism, it is a recognition of history, the imperfections of man, and the limits of reason.
Amazing grace.
All praise and honor to God. For too long, we've been blind to the way past injustices continue to shape the present. For too long, we were blind to the pain that the Confederate flag stirred in too many of our citizens. Removing the flag from this state's capital would not be an act of political correctness. It would simply be an acknowledgement that the cause for which they fought, the cause of slavery, was wrong. Yeah. Yeah. Yeah.
Amazing grace, how sweet the sound that saved.
Avec Barack Hussein Obama, nous étions à la fin de la liste qui se prolonge à l'infini des contributions des personnalités et de la communauté noire. Mais écoutons, cette fois, chanter de façon beaucoup plus orthodoxe par le Morehouse College, We Shall Overcome.
That's
l'avons déjà dit, la communauté noire n'est pas une communauté à part. C'est une communauté à part entière de la grande communauté humaine. C'est le lieu ici de remercier celles et ceux qui demeurent de bonne volonté dans la communauté noire ou ailleurs. Celles et ceux qui rendent possible la vie ensemble. Notamment les médias comme À Son de Cloche, comme à Cheese. Les jeunes qui animent cette station radio, des pays libres ou à la grandeur du monde, qui favorisent la bonne vie ensemble. Nous sommes très reconnaissants pour la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Nous sommes très reconnaissants pour les actes positifs qui sont posés pour la justice non seulement des Noirs, mais de toutes les minorités. Nous sommes reconnaissants pour les avancées qui sont faites dans la communauté humaine pour que les uns et les autres se sentent intégrés, aimés et qu'ils obtiennent justice. Encore mille merci pour cette belle célébration de l'histoire des Noirs de 2024. Bon samedi et à samedi prochain.